Et voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations selon leur marche. Ils partirent de Ramsès, donc une ville d'Égypte, le premier mois, donc le mois d'avril, le mois de Nisan pour les Juifs, hein, le 15e jour du premier mois. Quand vous voyez le 15e jour, c'est le lendemain de la Pécha, de la Pâque. C'est le lendemain de la Pâque. Parce que la Pâque, c'est le 14 de Nisan chez les Juifs, 14 avril. Hein. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Vous avez vu, parce que Vincent parlait de la main levée, et la main levée, ils sortent la main levée. Hein?
C'est la victoire.
Eh ben, évidemment, 430 ans d'esclavage, et mélangé au culte idolâtre, mélangé à tous les péchés de ce peuple, c'était un pauvre peuple, hein? Un pauvre peuple qui a plongé dans les péchés de l'Égypte. Moi, je vais rendre visite ici, à 5 km, chez une dame. Il y a des grandes statues d'Osiris, de toutes les divinités. Hein, vous savez, cette espèce de grand ibis, là, et puis les aigles, tout. Il y a tout dans ma maison. Elle s'appelle Marguerite. Elle a mal partout, et bon, j'y vais, moi. Elle m'aime bien, hein. Jusqu'à quel jour le Seigneur va-t-il rentrer dans cette maison? Mais maintenant, elle a mal. Et elle ose me dire, mais j'ai tellement mal, je comprends ce que Jésus a souffert sur la croix. Oh, ça avance. Merci Seigneur. Elle va finir par oublier cette statue. Il y a un jour, c'est moi qui vais prendre la remorque avec Tom ou un autre. Et ils ont embarqué, elle est crac, badaboum, boum. Vous comprenez? Mais elles sont pas dans les statues. On mettrait ça au musée ici, hein? Les gommets ici, hein, au musée à Virton, ils seraient contents de voir ça, hein? Et même autre part, à Arlon, hein? Mais c'est des sottises des hommes, tous ces trucs-là. Et du diable. Alors, qu'est-ce que je suis intolérant quand je parle comme ça, hein? Nous sommes dans un monde de tolérance, il faut tous se comprendre. C'est normal qu'on puisse adorer ces statues, c'est normal qu'on puisse... Je vois des puissances dans les êtres, dans les animaux, dans les arbres. C'est la pensée positive. Je ris de tout ça. C'est du vent qui existe depuis le péché d'Adam et Ève. Alors, c'est du vent du diable. Nombre, chapitre 33. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. C'est pas la main comme Hitler, hein? Parce que faites attention, hein, quand il faisait lever la main à tout son peuple, c'est parce qu'il recherchait des puissances. Les puissances hindoues, de la swastika, cette croix comme ça, qui tourne. Normalement, elle tourne dans le sens de la terre. C'est la bénédiction. Mais quand ça tourne, la branche tourne dans l'autre sens, c'est le sens de la destruction et de la domination. Et c'est d'autres dieux hindous. Et notre brave petit Hitler, 11-12 ans, a appris ça avec deux prêtres. Alors, c'est pour ça que la main levée d'Hitler, c'est la main vers la puissance du dominateur, la puissance du destructeur, de Satan. Il a appris avec ces deux prêtres-là, dans une abbaye. Hein? Et il avait une vengeance dans le cœur, une folle vengeance, parce que son grand-père était un baron juif de Vienne, extrêmement riche, qui avait engrossé sa servante et qui avait donné des sous pour nourrir... la servante. Et donc le papa de Hitler s'appelait monsieur Hudler, H-U-D-L-E-R, et il se sentait bafoué, cet homme, de ne pas avoir été reconnu par son vrai père qui était riche, etc., de ne pas avoir part aux bénédictions. Ben, on a ça dans la famille royale en Belgique, hein. Il y a une femme qui réclame, qui va au tribunal, qui met le roi Albert II au tribunal parce que la fille Boël. C'est pas neuf. Tout ça, c'est courant. C'est courant, ces trucs-là, dans les mondes. Et surtout des gens bien. Des gens qu'on dit bien. Alors, ce qui se passe, qu'ils ne sont pas si bien que ça. Alors, ce monsieur tellement mal dans sa peau qu'il était douanier à la frontière de l'Autriche et de la Bavière, et il avait un fils, il l'a mis dans une abbaye pour le bien éduquer. Ben oui, c'est là qu'il s'est fait corrompre. Mais la main levée d'Hitler n'est pas la main levée des Juifs en sortant de l'Égypte. C'est la main vers le Dieu vivant. C'est la main comme Moïse va la lever pour que la mer s'écarte. C'est la main dans la confiance dans l'éternel Dieu. Ce n'est pas la main de la svastika et du destructeur, de Satan. Comprenez bien que quand on a affaire à des manifestations avec la main levée, il faut toujours se demander vers quoi est-elle tournée cette main. Même parfois dans des réunions dites chrétiennes. Hein, il faut beaucoup de discernement pour se demander d'où ça vient parfois. Et de prudence. À la vue de tous les Égyptiens, et les Égyptiens ont enterré ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. Donc les premiers-nés, eh bien, les Égyptiens étaient en train de pleurer et d'enterrer leurs enfants. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux, donc contre les divinités, contre les statues, contre les temples, tout. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Et ils partirent de Sukkot et campèrent à Étham, qui est l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étham, se rendirent, détournèrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal Tsephon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Donc ils passent dans la mer, hein? Il passe dans la mer, mais il faut bien vous dire que c'est à peu près 3 jours après la Pâque. Donc, qu'est-ce que les Juifs ont dû faire? Ils ont été dans le désert. Pharaon a dû s'en débarrasser, il les a laissés faire. Ils ont adoré l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ils ont adoré Dieu. Moïse leur a parlé de Dieu. N'oubliez pas que Moïse a écrit le livre de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres, le Deutéronome, et qu'il a mis probablement par écrit aussi le livre de Job, qui est de la même époque d'Abraham, et qui s'est retransmis de façon orale. Alors, ce Moïse est un personnage que Dieu a forgé. Il avait une grande science, et il fallait quand même le briser, comme les autres. « Tu ne passeras pas la mer si moi, ce n'est pas moi qui l'écarte. » Donc, Moïse a appris à dépendre de Dieu, et il a appris, quand il était au bord de la mer, son bras tombait. C'est Caleb et Our qui ont soulevé le bras. C'est eux qui avaient la force de prier. Moïse, le grand témoin de la foi pour les Juifs, lui-même craquait en sa foi. Et il a fallu que le bras levé soit soutenu par 2 autres bras levés. Revenez bien ça dans la vie chrétienne. Nous avons tous à un moment donné les bras qui tombent. Tous. Et il faut à un moment donné avoir des frères et des sœurs pour relever le bras. N'oubliez jamais ça. On n'est pas chrétien tout seul. On n'est pas enfant de Dieu tout seul. Ça n'existe pas. C'est une recette que Dieu n'a pas créée. Alors, nous faisons partie d'un corps, et le pied n'est pas séparé de l'oreille, l'œil n'est pas séparé de l'autre pied. Oui, nous sommes attachés les uns aux autres par le Seigneur. Alors, au verset 8, ils partirent de devant Pi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étham et campèrent à Mara. Mara, l'amertume. Bon. Comment se fait-il qu'ils sont passés au milieu de la mer? Maintenant, avec la science, avec la géologie et l'archéologie, on le sait mieux, c'est qu'à cette époque-là, à la même époque, dans la Méditerranée, au milieu de la Méditerranée, vous avez déjà vu parfois ces belles photos de l'île du Santorin. L'île du Santorin, c'est fait un arc de cercle, et il y a des églises orthodoxes blanches, brillantes, hein, des belles églises orthodoxes, magnifiques, et grecques, et des des maisons, de jolies maisons, mais alors la mer intérieure, parce que ça fait un arc de cercle comme une lune, hein, eh bien, c'est magnifique, c'est un paysage fantastique. Eh bien, en fait, il y avait une immense île, là, c'était une civilisation Minéos, et c'était une très très grande démocratie où il y avait l'égalité entre l'homme et la femme, et un système de démocratie extrêmement poussé. Et les gens étaient bien, mais ils se sont rendus compte que la terre tremblait, que l'île allait exploser, et ils sont tous tirés. Ils sont tous partis avec les barques, ils sont partis. C'est ce qu'on appelle l'Atlantide, hein, dans certains récits. Et c'est Platon qui écrit ça, Platon, plusieurs siècles avant Jésus, qui dit qu'il y a une civilisation qui est disparue au milieu de la Méditerranée. Et maintenant, on en a des preuves, hein. On a des moyens d'aller au fond des mers. Alors, ce qui s'est passé, c'est que 2-3 jours après qu'ils soient tous partis, ils n'étaient pas bêtes, ils étaient tous partis, et ils se sont mis sur l'île de Crète, autre part, et le tremblement de terre est arrivé, c'est des centaines de millions de tonnes de cendres, de roches qui ont été pulvérisées en l'air, tout le bazar a sauté, il reste juste une couronne, et vous avez parti vers l'Égypte. Donc, quand vous avez des cendres sur l'Égypte et tout ça, dans les récits de l'Exode, qui est avec les sauterelles, les plaies et tout ça, ça venait de là. Et on trouve au fond de la Méditerranée toute cette trace de cendres encore. On peut la retrouver. Alors, il faut bien se dire ceci, c'est que quand une île comme ça explose et qu'il se fait un trou, un cratère, l'eau vient après. Quand c'est fini, quand ça se calme, l'eau rentre. C'est des centaines de millions de mètres cubes d'eau qui sont rentrés. Et l'eau, quand devient un gaz, elle multiplie par 22,5 son volume, la vapeur d'eau. Un litre d'eau, c'est 22,5 en vapeur. Alors, pratiquement, ça fait un geyser, ça fait quelque chose de formidable, ça fait un raz-de-marée, et ça fait un trouble énorme sur la Méditerranée, un trouble énorme. Et les gens de cette île, qui est à l'île de Crète et tout ça, ont une vague, et estimée actuellement, une vague, un tsunami estimé à 200 mètres de haut. C'est pas 24 mètres comme au nord du Japon. Ils ont tous été liquidés, même qu'ils avaient fui intelligemment. Alors, ils ont tous été détruits, et pratiquement, on voit que, quand même, le phénomène qui a permis à Moïse de passer a existé. Rappelez-vous que Jésus, sur la barque dans la mer, il arrête la tempête. Mais il a aussi permis que la tempête arrive. Eh bien, la même chose pour Moïse avec la mer Rouge. Tout est dans sa main. Donc, on arrive après un phénomène formidable où la puissance de Dieu s'est révélée et ce qui a été une bénédiction pour le peuple hébreu de pouvoir passer. Et quand les Égyptiens sont arrivés, c'était trop tard. L'eau revenait déjà. Hein. Pensez à ce qui s'est passé en Thaïlande, hein, avec le tsunami. La mer reculait, tout le monde, comme des inconscients, allait vers plus loin. Sauf les éléphants et les oiseaux, eux. Ils se taillaient dans la montagne. Les éléphants cassaient leurs chaînes. C'est des éléphants utilitaires, hein, domestiqués. Ils cassaient leurs chaînes, ils partaient dans la montagne. Et quand l'eau est revenue, ben, les hommes étaient noyés. Pas les éléphants ni les oiseaux. Où sont les intelligents parfois? Où est l'intelligence? Eh bien, là, les Égyptiens ont manqué d'intelligence. Ils se sont fait avoir, comme en Thaïlande, avec le tsunami. Ils suivaient, ils voulaient rattraper les Hébreux, mais ils se sont fait avoir. Voilà. Voilà une période de la vie d'Israël. Et à Mara, dans toute cette période-là d'amertume, il y a une période d'amertume qui vient, là, des eaux de Mara, il y a d'autres textes dans la Bible, le peuple n'arrive pas à saisir que Dieu est puissant, que Dieu les a délivrés. Il n'arrive pas à comprendre que Dieu est là et les conduit. Il est nulle part, il ne sait pas, ou il ne veut pas savoir. Peut-être ça aussi. Qui sommes-nous, nous? Des fois, quand nous sommes dans la difficulté, est-ce que réellement nous comprenons rien, nous sommes perdus. Alors demandons à des autres de relever nos mains. Demandons à des autres de lever nos bras. Notre foi. Mais si nous ne voulons pas être aidés, nous ne voulons pas être éclairés, ben j'ai beau vouloir, j'ai des amis qui veulent me lever mon bras, ma main, mais je ne veux pas. Ça, c'est les eaux de Marat. C'est tout le contexte de Marat. Les eaux d'amertume. Ils partirent de Marat, arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers, ce fut là qu'ils campèrent. On peut visiter, hein. C'est pas du bidon, tous ces trucs-là, hein. On peut visiter. Quand on est avec quelqu'un qui connaît bien la Bible et qu'on visite ces régions, tout tient debout. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Donc là, il y a une bénédiction. 12 sources d'eau, pensez aux 12 apôtres. Hein? Et puis quand Jésus a envoyé 12 apôtres, un peu plus tard dans Luc, vous voyez qu'il envoie 72 disciples, 72 disciples, il les envoie aussi évangéliser, 12 plus 72, pensez à ça. C'est la création du peuple de Dieu, c'est l'avancée du peuple de Dieu, c'est une bénédiction, ces chiffres-là et cette eau-là. Alors, ils partirent de la mer Rouge, campèrent dans le désert de Sin. Alors, le désert de Sin, c'est encore quelque chose de spécial. Ils partirent du désert de Sin, campèrent à Dovka, ils partirent de Dovka et campèrent à Alouche. Puis ils arrivent à Réphidim. Vous verrez aussi des textes sur Réphidim, dans l'Épître aux Hébreux. Autre part, vous allez voir, et le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ah! Je ne trouve plus à boire. Et c'est la faute de Dieu. Je ne trouve plus, j'ai pas assez de sous pour vivre. Ma voiture ne va plus. Je me retrouve seul. Je n'ai plus de maison, je n'ai plus de conjoint. Et il n'y a plus moyen. Je ne vois pas comment je peux m'en sortir. Alors, devant le problème, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Est-ce que je vais demander, je vais parler au Seigneur? Est-ce que je vais humblement me confier au Seigneur, me déposer au Seigneur humblement? Ou est-ce que je vais faire la bombe? Je vais être dans la tornade. J'ai lu une fois une poésie d'un poète russe. J'avais 18-19 ans et j'avais un caractère spécial aussi, comme beaucoup sans doute. Et j'étais au bord de la révolte contre Dieu et j'allais vers le suicide. Ou j'allais vers la foi, vers le Seigneur. Et je lis une poésie de Lermontov, un poète russe, je ne sais pas si c'est chrétien, je m'en fiche, mais enfin, ce verset dans sa poésie disait ceci. « Et toi qui cherches la paix dans la révolte, qui cherches la paix dans la révolte, tu n'y trouveras que la tempête !» Schlack. Là, ça a été un tournant de ma vie. J'aimais bien de lire, je lisais beaucoup. 2 bouquins par semaine. J'étais passionné, je voulais savoir. En Lermontov, et toi qui cherches la paix dans la révolte, tu n'y trouveras que la tempête. C'était fini, j'avais compris pour la vie que la révolte, c'est du poison. C'est du poison. Et je vous le dis franchement, il faut savoir entendre au bon moment la vérité qui peut me sauver la vie, spirituelle et physique, hein. Il ne va pas m'amener au désastre. Notre cœur est toujours tourmenté. Et dans Deutéronome, de Moïse le dit, de la part de l'Éternel, choisis, tu as deux chemins devant toi, le chemin de la mort, le chemin de la vie. Choisis. Ben, combien de fois, les amis, combien de fois ça m'est arrivé? C'est jamais fini. Parce qu'on est tordu. Depuis le péché d'Adam et Ève, on est tordu. Hein. Chaque fois, il faut réajuster. Alors, à Réphidim, le peuple ne trouva point à boire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils vont râler, ils vont s'opposer à Dieu, mais s'opposer à Moïse aussi, et tout. Bon, alors, ils vont d'étape en étape, ils retrouvent de l'eau, etc. C'est... Tant bien que mal, ça dure longtemps, ce truc-là. 40 ans. 40 ans de misère, de murmures, etc. Et ils arrivent au verset 36. Ils partirent d'Etchon Geber et campèrent dans le désert de Tsin, c'est Kadès. Kadès. Ou parfois Kadès Barnea. Hmm? Regardons dans Nombre, verset 20, chapitre 20, verset 8. J'essaye aujourd'hui, alors que j'avais des prédications de prêt, mais c'est cette nuit, en relisant, et la nuit d'avant, parce que j'en ai mal aux yeux, je dis, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose là-dedans que le Seigneur veut que je dise. Et je vais vous le dire après. Chapitre 20, verset 8. Voilà ce qui se passe à Kadès. Chapitre 20, on va commencer au début. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans les airs de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, la sœur de Moïse, et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Ça y est, ça recommence. Toujours des tuiles. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Oui, il y en a d'autres qui sont morts dans le désert déjà. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Oh, ça veut dire ce lieu maudit! Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Écoutez, les amis, je vais prendre une autre comparaison. Mais qu'est-ce qu'on fout dans cette fichue région? Il n'y a quasiment pas de chrétiens, et chaque fois qu'il y en a, ils se tirent. Chaque fois qu'il y en a, ils ne sont pas contents. Ils vont voir autre part. On peut tomber dans l'amertume, et se tordre soi-même, devenir un tordu. Alors qu'on prétend être avec Dieu, faut faire gaffe, ce méchant lieu. Y a-t-il un méchant lieu où Dieu ne veuille pas sauver des âmes? Même en prison, Dieu veut sauver des âmes. Même dans les maisons closes, dans les maisons de prostitution, il veut sauver des âmes. Sur les chantiers, dans les usines, il veut sauver des âmes, partout. Il n'y a pas de méchant lieu, il n'y a que des méchantes personnes. Ou des gens avec Christ. Il n'y a pas de méchant lieu. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage. Il y a de quoi, hein? Et la gloire de l'Éternel leur apparut. Mais ils n'ont pas d'autre solution, hein? Seigneur, on est au bout. On est sur la caisse, on se met à genoux, on prie. Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, c'est foutu. Si ce n'est pas toi qui interviens, tu es déjà intervenu chaque fois. On te remet tout. Tu vois ce peuple, tu nous vois, on te remet tout. Et alors, ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge, donc d'Aaron, le bâton, hein, et convoque l'assemblée. Toi et ton frère, Aaron, vous parlerez en leur présence, au rocher il donnera ses eaux. Vous parlerez au rocher, et le rocher donnera ses eaux. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe là? Vous allez amener tout le monde devant le rocher, vous parlerez au rocher, et le rocher vous donnera ses eaux. Ça veut dire quoi?
C'est un miracle, que Jésus est le rocher, enfin, que le rocher, derrière le rocher,
c'est 1 Corinthiens. Chapitre 10, verset 4. Ce rocher que Israël suivait était Christ. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Christ conduisait son peuple. Christ a toujours été le médiateur entre Dieu et les hommes, même dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 10, verset 4. N'avons-nous pas été sous la nuée,
à travers la mer rouge? Le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ.
Le rocher les suivait. Il était entre les Égyptiens et eux. Et nous, entre Satan et nous, il y a Christ, hein? faut l'accepter d'ailleurs. Alors, il faut l'accepter dans la foi. Il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, tu abreuveras l'assemblée de leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Alors là, vous voyez Moïse qui change les paroles de Dieu. C'est pourtant un grand serviteur de Dieu. Il change les paroles de Dieu, et ça c'est, faisons gaffe à nous. Même le meilleur évangélique peut changer les paroles de la Bible et les changer de sens. Faire attention à ça, les amis. Nous avons toujours quelque chose en nous qui nous piège. Ça s'appelle le péché. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'il a mis? Est-ce ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? C'est pas ça que Dieu a dit. Allez devant le rocher, demandez au rocher, il donnera de l'eau. C'est pas Moïse et Aaron qui vont sortir l'eau du rocher. C'est pas une église qui prie et tout d'un coup, tu viens dans notre église, tu seras guéri. Tu vas dans notre église, tu auras la prospérité. Tu vas dans notre église, tu auras un mari dans 6 mois. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ce truc-là? C'est de l'imposture. Moïse leva la main, regardez, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Eh bien, sans le savoir, Moïse est aussi rebelle que ceux qui l'empêchent de lui. Écoutez donc, rebelles. Il a un doigt sur eux, il a un doigt contre Dieu, il en a 3 contre lui. 3 contre lui! Parce qu'il s'est trompé. C'est Dieu le rocher, c'est Dieu qui donne la vie. Et ce n'est pas Moïse avec Aaron, avec leur prière. Ce n'est pas monsieur le prêtre ou monseigneur, monsieur le pape ou un grand pasteur qui donne la vie en imposant les mains, en faisant des grandes prières. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et l'homme, le rocher, le Christ. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi. » Vous avez vu? Parce que vous n'avez pas cru en moi. Vous avez cru en vous en tapant sur le rocher. Une église n'est pas là pour croire en elle-même. Un chrétien n'est pas là pour croire en soi. Pauvre chrétien qui est tombé là-dedans. Et ça va vite, hein. Pauvre église qui tombe là-dedans. Ça va vite, hein. Regardez l'église d'Éphèse et cette église dans l'Apocalypse. Alors, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alors, moi je me suis posé la question, les amis, nous passons par un petit goulot d'étranglement. On reste très peu dans l'église et il faut savoir, bon, quelqu'un nous avait averti d'ailleurs, nous avait jeté de malédiction dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Dieu a autorité sur toutes les malédictions. Les enfants de Dieu ont le rocher entre Satan et eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que si nous n'honorons pas le Christ vraiment comme il doit être à sa place, si nous donnons trop d'importance à nous-mêmes, à notre assemblée, à tous nos trucs, à nos prières, à nos jeûnes et tout le reste, qu'on croit que ça vient de nous, eh bien, on reste dans le désert. On n'arrive pas à la terre promise. On ne voit pas les résultats arriver. Verset 13. Ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Donc, ces eaux de la révolte, c'est quand même dur, les amis. C'est dur à voir. Donc, dans Nombre, on va aller voir maintenant 27, verset 14. Nombre 27, verset 14. Alors, le livre des Nombres, c'est particulier quand même. Il faut le relire et le relire et le relire. Seigneur, il faut que tu m'éclaires, quoi, parce que ça, c'est pas facile.
C'est compliqué.
C'est pas facile. Mais c'est pas facile, tant mieux que c'est pas facile. À un moment donné, hein, ben laisse-moi faire, je vais t'expliquer. C'est comme les disciples d'Emmaüs avec Jésus. Tout d'un coup, leur cœur se réjouit, il leur expliquait les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit aux gens sans intelligence. Aux gens sans intelligence. Ils avaient eu la Bible depuis leur naissance quand même. Alors, moi je pense qu'on est les mêmes. On est les mêmes. Alors, nombre 27, hein, verset 13. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Donc, vous ne rentrerez pas. Toutes ces générations-là, et toi, Aaron, et toi, Moïse, vous ne rentrerez pas là-bas. De l'autre côté du Jourdain, en Canaan. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée. Rappelez-vous ce qu'on vient de dire avant, hein? Que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Dieu n'avait pas été sanctifié comme le leader, le dirigeant, le seul dirigeant du peuple de Dieu. Et Aaron et Moïse s'étaient fait passer pour des grands dirigeants. Ils frappent le rocher et l'eau sort. Mais ça, Dieu ne pardonne pas du tout. Quand on a un mandat de Dieu, ce n'est pas pour prendre sa place. On est mandaté, on n'est pas le mandataire. On n'est pas celui qui crée le mandat, on est sous le mandat. Et quand on est en mission pour Jésus, on est sous la mission. On est dans la mission. Et regardez, parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Sin, hein, de parler au rocher, le rocher vous donne l'eau. C'est ça la rébellion. Lors de la contestation de l'Assemblée, et vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. Les eaux de contestation, vous voyez le mot? Mais ça c'est renversant, ce truc-là. Hmm?
C'est quel verset?
Chapitre 27, verset 14.
Et recueilli, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont mourir? Mm-hmm. Recueillir.
Ben, comment?
Vous serez recueillis.
Ben, il va mourir, il va être enterré là,
sur une côte,
la rive orientale du Jourdain, il ne passera pas. Hein?
Et dans le psaume 94, aussi, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent bien qu'ils aient vu mon action. Dans psaume 95, verset 8.
Oui. Maintenant, on est dans nombre 27. Je continue à lire au verset 15 et 16. Moïse parlait à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, donc les êtres humains sont faits de chair et d'eau, mais il y a un esprit en eux. Vous voyez, le Dieu des esprits de toute chair. Donc, nous avons un esprit. Nous avons une capacité de décider et de refuser. Capacité de chercher à comprendre. Et notre Dieu veut s'adresser à notre esprit. Établis sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux, qui entre devant eux, qui les fasse sortir, qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit point comme des brebis qui n'ont point de berger. Qu'est-ce qui s'est passé? Aaron et Moïse ont désobéi, le peuple n'a plus de berger. À partir du moment où dans une assemblée, l'homme prend la place de Christ, même s'il est encore là en train de prêcher, même en train de faire des belles réunions, cette assemblée n'a déjà plus de berger. C'est plus que une pièce de théâtre. Et regardez bien, faites attention à ça. Faites attention à ça. C'est quand même, ça décape, hein. Pour moi, la parole de Dieu décape. Hein. Il faut trouver quelqu'un d'autre que toi, Moïse, que Aaron. Eh bien, ça sera qui? Ben, ça va être...
Josué.
Josué et Caleb. Oui, Josué. Mais Josué, il a tenu la route depuis longtemps, derrière Moïse. C'est lui qui soulevait son bras au bord de la mer. Avec Noun. fils de Nun, fils d'adoration, homme en qui réside l'esprit, tu poseras ta main sur lui, etc. Donc, il va choisir deux hommes, c'est Josué et Caleb. Ils vont permettre au peuple de se comporter d'une façon digne et d'obéir aux ordres de Dieu. Bon, maintenant, quand j'analyse ce verset, verset 16 et 17, et que je lis Josué, il arrive que Josué soit couché à terre, il soit prostré, complètement, comme on dit, dégonflé, découragé. De nouveau, nous, humains, nous passons par des choses pareilles. Les bras tombent. Hein? C'est dans le chapitre 7 de Josué. Pourquoi restes-tu prostré là? Va, marche avec les forces que tu as, l'Éternel lui dit. Et fortifie-toi au chapitre 1 de Josué. Alors, c'est quoi? C'est que tout homme n'est qu'un homme. Même le meilleur ne sera jamais qu'un homme. Mais alors, cette parole-là du verset 16 et 17, c'est dans l'attente d'un homme qui soit à la fois homme et Dieu. Ce verset-là, pour le peuple d'Israël et pour les chrétiens, c'est un homme qui soit à la fois homme et Dieu. Celui-là ne laisse pas tomber les bras. Celui-là, il va à la croix jusqu'au bout. Celui-là, il ressuscite. Il est approuvé de Dieu. Il n'a pas failli à sa mission. Il ne s'est pas mis en avant. Il a toujours dit, je donne la parole que Dieu m'a donnée pour vous. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Regardez le modèle de Jésus. Et il résiste à Satan dans le désert. Il ne vaut aucune de ces gloires-là, de ce monde. Jésus est vraiment celui qui correspond au profil du verset 16 et 17. Josué, c'est un provisoire. C'est un modèle provisoire. Quel est possible, modèle provisoire. Il y a eu des modèles provisoires, le roi Josias, hein, etc. Joas, et il y en a eu comme ça. Il y a des modèles, David, des modèles provisoires. Mais le vrai, c'est Christ. Hein. Relisons ce verset. Que l'Éternel, le Dieu des esprits tout chair, établisse sur l'assemblée, donc je pense sur l'assemblée de Dieu, un homme qui sort devant eux, qui entre devant eux, qui les fasse sortir et les fasse entrer. Quand vous prenez Jean chapitre 10, je suis le bon berger, je me tiens à la porte, je fais entrer mes brebis, je les fais sortir. Elles connaissent ma voix, elles me suivent. Voilà le verset. Jean chapitre 10, verset 5. L'accomplissement de cette prophétie-là, c'est pour Christ. Naturellement, il y a des types de Christ avant, il y a des modèles qui ressemblent. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais pas toujours, à un moment donné, ils craquent. Ce sont des gens qui préfigurent Christ. Ça va? Alors, c'est passionnant quand on lit le livre des Nombres de cette façon-là. Alors, regardons dans le chapitre 32 de... j'y étais tout à l'heure. C'est dans le chapitre 32... chapitre 32, attendez, je suis dans lequel 32, verset 8. Oui. 32, verset 8. Verset 7. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël? C'est Moïse qui dit ça à trois tribus qui veulent rester du côté oriental du Jourdain et laisser les autres en plan. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ils disent, nous, on a trouvé un territoire, on ne passe pas le Jourdain. Mais alors, Moïse va quand même trouver un engagement de la part de ces trois tribus-là. Elles vont dire, non, on s'installe, mais on va avec nos hommes se battre avec eux pour qu'ils aient leur territoire. Ainsi, firent vos pères quand je les envoyais de Kadesh Barnéa pour examiner le pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Kadesh Barnéa, hein? Outre le fait que Moïse et Aaron ont laissé croire que c'est eux qui faisaient sortir l'eau, il y a eu un autre truc. C'est un endroit très important pour le peuple d'Israël, ça, Kadesh Barnéa. Ben, il y a eu quelque chose. C'est qu'on a envoyé des hommes de chaque tribu en Canaan pour voir ce qui s'y passait. Et la mission de Moïse a mis le doute. Allez, allez voir ce qui s'y passe pour voir si on peut y aller. Il n'aurait jamais dû dire ça. Il n'aurait jamais dû faire ça. Il avait la promesse d'y aller. Mais il envoyait des gaillards là-bas, et il y en a 10 qui ont dit, non, on n'y va pas, ils sont costauds, etc., ils sont trop forts. Et puis il y en a 2, Josué et Caleb, qui ont dit, mais si on peut y aller, le Seigneur sera avec nous, l'Éternel sera avec nous. Qu'est-ce qu'a fait le peuple? Il a suivi les 10. Quelques-uns ont cru dans ce que Josué et Caleb avaient dit. Et pourquoi il y a eu ce problème? Parce que Moïse a tendu la perche aux incrédules, en disant, on va aller voir, on ne sait jamais. On va aller voir, on ne sait jamais. Donc, le truc, c'est que je voudrais vous dire ceci, et c'est ça que... C'est très important de voir mal les fois quand on ne sait plus dormir. Réfléchir. Très important. Et ne mettez pas vos misères comme si c'était des misères. Des fois, c'est des grâces. Des grâces. Pour trouver des grâces, il faut parfois quelques misères. Ou des grandes. Alors, ce qui se passe, c'est que s'il n'avait pas dit « J'envoie des espions pour voir ce qui se passe là-bas », il dit « Dieu m'a promis et je vous certifie qu'on peut y aller ben, », il passait le Jourdain aussi, M. Moïse, et M. Aaron aussi, mais ils n'ont pas passé. Ils ont mis le doute, ils ont mis la poisse dans la foi du peuple. Alors, dans les assemblées chrétiennes, on peut avoir de la place, de l'influence, et sans s'en rendre compte, mettre l'incrédulité. Les responsables peuvent mettre l'incrédulité dans une église. Et ils paraissent comme des gens de foi. Ils paraissent des gens importants à leurs yeux. Vous savez, quand j'ai lu ce texte, moi, j'ai pleuré, moi. J'ai dit, Seigneur, combien de fois je n'ai pas été ce que je devais être pour toi. Quand j'ai lu cet texte, combien de fois, Seigneur, je n'ai pas été pour toi ce que je devais être. J'étais pas à la hauteur. J'ai pensé les choses, c'était pas comme ça que je pouvais les penser. Seigneur, prends pitié. C'est bon qu'à la croix, tu es mort pour moi sur la croix, que tu m'as fait grâce, mais je ne mérite pas. Je suis un mauvais serviteur. Je ne mérite pas, Seigneur, d'entrer dans ton paradis, dans ton ciel. Je suis un mauvais serviteur. J'ai fait peut-être 10 choses bonnes, mais j'en ai fait 300. Mais complètement à l'envers. Seigneur, je me confie dans ta grâce. Je me confie dans ta grâce, Seigneur. Je sais que tu m'as appelé, que tu m'as sauvé. Parce que tu m'aimes. C'est par grâce que je suis sauvé. Seigneur, je n'ai rien apporté, je suis qu'un pauvre bougre. Je croyais être un bon disciple. Et je ne le suis pas. Seigneur, apprends-moi à être ton disciple. Apprends-moi à être ton disciple. À un moment donné, le Seigneur, et ça c'est l'Esprit Saint, il met le doigt sur ce que je suis pour que je me confie dans la grâce, uniquement dans la grâce, dans ce qu'est Dieu pour moi, pas ce que je suis pour Dieu. Ce que je suis pour Dieu, Dieu n'en a pas besoin. Pas plus de Moïse et d'Aaron. Ce que je suis pour Dieu, il n'en a pas besoin dans sa gloire, dans sa sainteté, il a tout. Mais lui, pour moi, veut tout. Est-ce que j'ai vraiment compris ça? Est-ce que j'ai vraiment compris ça? Nous, comme les Hébreux, nous avons la tête dure. Alors j'en viens à Hébreux, les amis. J'en viens à Hébreux, puis je vais terminer. Vous savez qu'à un moment donné, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur, qui est probablement Apollos, fait référence à ces événements. Hein? Mm. Il fait référence...
Et, la foi.
Ben, la foi et ce qui s'est passé dans le désert. Hein? C'est ce qui s'est passé dans le désert. Et comment ça s'est passé? au chapitre 3. Chapitre 3 d'Hébreu. Ça, c'est pour nous chrétiens, ça. Et ça s'inscrit dans la logique du texte, des textes qu'on vient de lire ensemble, que je viens de vous commenter. Chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Ils me tentèrent pour m'éprouver. Ils se sont mis en avant et ils ont laissé croire au peuple que c'est eux qui faisaient sortir l'eau. Et puis en plus, ils vont montrer qu'ils sont intelligents, ils vont envoyer des espions pour voir si la terre de Canaan on peut la conquérir. C'est intelligent, c'est sage ça. C'est sage, ah oui. On a un bon chef, il va quand même mesurer l'ampleur du combat qu'il faut mener. Non, c'est pas ça qu'il a demandé. Demandez la foi, c'est tout. Et alors, est-ce que moi aujourd'hui, je donne ma foi entièrement au Seigneur? Comme un enfant, Jésus l'a dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants, comme un enfant. Le reste, basta. Alors, au verset 10, « Aussi je fus irrité contre ces générations, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. » Vous imaginez? Quand, à la fin du premier siècle, dans les années 95, 95, 96, Apollos écrit ça, il prêche ça à Alexandrie, il prêche ça à l'église de Corinthe, il va partout. Apollos est un grand prédicateur, formé à la pensée grecque, il connaissait vraiment toute la grammaire, toute la prédication grecque, il savait prêcher en public, et il avait une formation juive. C'était un caïd, hein, comme Paul, hein, au niveau intellectuel. Mais ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il veut dire à la fin du premier siècle, 65 ans après la mort et la résurrection de Jésus, qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, c'est que vous êtes encore en train de vous comporter comme ça s'est passé dans le désert. Et si ça continue, cette église-là ne continuera pas plus loin que 5 ou 10 ans encore, si vous ne vous repentez pas. C'est ça qu'il a voulu dire à Apollos. Alors, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenons le verset 10. Je fus irrité contre ces générations et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, ils ne sont pas entrés en Canaan. Oui, ça rompt et ce peuple. C'est la génération d'après avec Josué et Caleb. Et nous, lorsque Jésus reviendra, serons-nous pris? Serons-nous enlevés avec Jésus? Parce qu'on est assis dans une église, parce qu'on lit la Bible? C'est pas tout à fait ça que Jésus a dit. Celui qui fait la volonté de mon Père. Celui qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7, 21. Hein? Et donc, ici, pour être dans le repos, pour être dans la connexion réellement avec Dieu, dans la paix de Dieu, il faut être conduit par la volonté du Père. Nous devons être conduits par la volonté du Père. Comme Moïse aurait dû être conduit par la volonté de son Père des cieux, Aaron aussi. Mais non, il a fallu envoyer des gens intelligents pour voir si c'était possible d'aller entrer en Canaan. Alors que Dieu avait dit qu'ils y rentreraient. Mais c'est mettre Dieu au défi, ça. Combien de fois nous raisonnons, nous mettons Dieu au défi. Et nous lui disons, t'es un incapable, il faut quand même que j'analyse tout, on ne sait jamais. T'es un incapable, il faut que je fasse gaffe avec toi. Tu promets des choses, mais tu ne vas pas les faire. Hein? Alors, il faut que j'analyse tout. Dieu dit alors à ceci, ils n'entreront pas dans mon repos, effectivement. Parce qu'il n'y a pas une vraie communion dans la foi. Regardez, verset 12, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Le Dieu vivant. Le vrai Dieu, le vrai vivant. Le vrai rocher qui donne la vie, le vrai Christ ressuscité est avec nous, au milieu de nous. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est ça que je me suis rendu compte en relisant ces textes-là, cette dernière nuit. Le péché, des fois, il a une force de séduction incroyable. Il nous entourloupe, il nous amène, et on est toujours croyant, on est toujours, on se croit toujours en entente avec Dieu, et c'est pas vrai, il nous a séduit. Et regardez bien, la parole de Dieu est comme une épée qui rentre dans la jointure des os, c'est dans l'Épître aux Hébreux d'ailleurs, pour qu'on puisse apprendre à discerner les pensées du cœur, voir le méli-mélo qui se passe en nous. Nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Quand vous pensez que dans l'évangile de Luc, Jésus dit, au chapitre 16 et 17, 18, il dit, « Quand le Fils de l'homme reviendra, y aura-t-il encore la foi sur la terre ?» Mais nous, on se figure, tiens, il y a 1,2 milliard ou 2,5 milliards de chrétiens, hein, tout confondu, il y a la foi. Mais ce n'est pas cette foi-là. Ce n'est pas cette foi-là. À la lumière des textes que nous venons de lire, c'est est-ce que je sais que mon Dieu vivant dirige ma vie et je lui fais confiance complètement? Et c'est le Dieu dans mon Église qui doit conduire l'Église. Le Dieu vivant, Christ vivant qui doit conduire mon Église, pas les hommes. Aucun. Alors, chapitre 4 de Hébreux. Craignons donc, c'est une crainte de respect, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, donc l'Évangile, nous a été annoncée aussi bien à eux, aussi bien qu'à eux, mais la parole, aux Juifs, et eux c'est des Grecs, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvèrent pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc là, c'est la clé. C'est la clé de tout ce que je voulais dire depuis le livre des Nombres. La parole de Dieu en moi trouve-t-elle la foi? La parole est vivante, hein? La parole c'est Dieu. Trouve-t-elle la foi? Est-ce qu'il y a un cœur à cœur? C'est mon esprit et l'esprit de Dieu. Ça se fond ensemble. Je me laisse prendre par lui. Est-ce qu'il trouve le cœur et l'esprit qu'il faut, qu'il me demande? Ou est-ce que je ne présente qu'un faux cœur, une fausse foi, un esprit qui se détourne tout le temps, qui ne compte que sur lui-même? Et un peu plus loin, relisez, méditez ce texte-là, hein, verset 7, « Dieu fixe de nouveau un jour ». Aujourd'hui, regardez comme cet Apollos est quand même généreux et il est dans le sens de Christ, hein, de la patience, de la miséricorde de Christ. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui devant ceux qui sont là, à qui il parle. Parce que c'est un homme réputé dans ses prédications. C'était le Spurgeon de la fin du premier siècle. Hein. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui. Les amis, le mot aujourd'hui prend tout son sens quand on est en contact réel avec le Seigneur. C'est l'aujourd'hui que Dieu m'a demandé. C'est l'aujourd'hui que Dieu veut. C'est cette communion avec lui qu'il me veut. Il me veut, moi, il me veut à lui. Il me veut à lui. Parce qu'il sait que toute la vie est en lui et qu'il me donne sa vie. C'est un Dieu d'amour, un Dieu généreux. un Dieu de vie. C'est pas un Dieu de malédiction. C'est ça, le vrai Dieu vivant d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu du peuple, des élus, de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. C'est pas de la religion, c'est une union au Dieu vivant. Aujourd'hui, suis-je marié dans mon âme avec Jésus? Suis-je l'épouse de Christ? Sommes-nous l'épouse de Christ? Voilà, que Dieu nous accorde sa paix et sa joie. Moi, je suis certain de l'immense amour de Dieu et